Le journal présenté par Ilan Malka.
Bonsoir. Les États-Unis et la Chine ensemble pour essayer de raisonner la Corée du Nord. Aujourd'hui, des rencontres se déroulent à Manille entre chefs de la diplomatie des trois pays, notamment pour avancer sur le dossier brûlant du nucléaire à Pyongyang. Hier, on le rappelle, de nouvelles sanctions contre le régime de Kim Jong-un ont été votées à l'ONU. L'invité de ce journal sera Antoine Bondaz, spécialiste du sujet et chercheur pour la Fondation de la Recherche Stratégique. Au Venezuela, une tentative de soulèvement a été déjouée. C'est ce qu'affirment les autorités de Caracas. Elles racontent avoir neutralisé une attaque terroriste contre une base de l'armée à Valencia. Politique, la France insoumise tente de mobiliser pour préparer sa rentrée. Une caravane insoumise est partie ce matin pour sillonner le pays. Elle a fait aujourd'hui sa première halte à Mantes-la-Jolie. Nous entendrons le reportage de David Ravier. Mais tout d'abord, Israël veut et va probablement fermer le bureau de la chaîne télévisée d'information du Qatar Al Jazeera, bureau qui se trouve à Jérusalem. L'annonce a été faite par un communiqué du ministère israélien des communications. Pour l'État hébreu, le traitement des informations de la chaîne est beaucoup trop partial. Les précisions sur place de notre correspondante Marie Semelin.
Cela fait des années qu'Israël accuse Al Jazeera de partialité dans sa couverture du conflit israélo-palestinien, mais cette fois-ci, le gouvernement semble bien décidé à vouloir expulser la télévision du pays. C'est la crise autour de l'esplanade des mosquées à Jérusalem qui a déclenché de nouveau la colère d'Israël. Dans un post sur les réseaux sociaux fin juillet, le premier ministre Benjamin Netanyahou avait reproché à Al Jazeera d'inciter à la violence à propos du mont du Temple, l'appellation juive de l'esplanade des mosquées. C'est donc d'incitation à la violence que la chaîne est accusée, et cet après-midi, le ministre israélien des communications Ayoub Kara a reproché à la télévision d'être un outil du groupe État islamique, du Hamas, du Hezbollah et de l'Iran, et d'ajouter que la chaîne soutenait le terrorisme. Le ministère va donc demander la suspension des accréditations des journalistes dont le bureau est basé à Jérusalem. Reste au gouvernement à trouver l'outil législatif qui permette de limiter sa diffusion par satellite dans l'État hébreu. Israël a justifié cette décision en rappelant que d'autres États, comme l'Égypte et l'Arabie Saoudite, avaient déjà interdit la présence et la diffusion de la chaîne sur leur territoire. Sur le plan national, le Premier ministre israélien se montre ainsi résolu. Il y a une dizaine de jours, il renonçait aux détecteurs de métaux autour de l'esplanade des mosquées à Jérusalem, un geste perçu comme une capitulation par l'extrême droite membre de sa coalition. Alors depuis la fin de la crise, il multiplie les gestes de fermeté à son intention.
De son côté, Al Jazeera dénonce cette décision d'Israël et souhaite la contester en justice. On apprend que 4 soldats iraniens ont été tués aujourd'hui et 8 autres blessés. Ils ont été touchés par des tirs de l'un de leurs collègues près de Téhéran. L'incident est probablement dû à des problèmes psychologiques du soldat qui a soudainement ouvert le feu. Washington et Pékin accentuent ensemble leur pression sur le régime de Pyongyang. Des représentants des trois pays, USA, Chine et Corée du Nord, sont aujourd'hui réunis aux Philippines, à Manille, en amont d'une réunion qui s'ouvre demain. Il s'agit du Forum régional de l'Association des Nations du Sud-Est Asiatique. Le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a invité aujourd'hui la Corée du Nord à la modération. Il appelle Pyongyang à prendre une décision bonne et intelligente concernant son programme nucléaire. De son côté, Rex Tillerson, secrétaire d'État américain, s'est dit encouragé par le vote d'hier. On rappelle que l'ONU a approuvé de nouvelles sanctions contre le régime de Kim Jong-un. Alors, ces sanctions peuvent-elles être vraiment efficaces? Valérie Crova a posé la question à Antoine Bondaz. Il est spécialiste de la Corée du Nord. Il est également chercheur à la Fondation pour la Recherche Stratégique. Il est l'invité de cette édition. On l'écoute.
Ces sanctions sont sans précédent puisqu'elles empêchent désormais la Corée du Nord de commercer une grande partie de ses produits d'exportation, notamment le charbon, le fer, mais aussi les fruits de mer, qui étaient extrêmement appréciés en Chine. Il y a un deuxième élément qui est peu mentionné, qui est l'interdiction à la Corée du Nord d'envoyer davantage de travailleurs à l'étranger, puisque ces travailleurs nord-coréens étaient une source de devises extrêmement importante pour le régime. Ces sanctions sont nécessaires, puisqu'elles permettent à la communauté internationale de sanctionner la Corée du Nord vis-à-vis de son non-respect des normes internationales, mais elles seront malheureusement insuffisantes pour forcer la Corée du Nord à se dénucléariser, et ce pour une raison simple, c'est que la Corée du Nord considère que le coût économique et diplomatique de ces sanctions ne dépasse pas le bénéfice militaire et politique du développement des armes nucléaires et balistiques.
Quelle incidence ces sanctions peuvent-elles avoir sur la population nord-coréenne?
Alors, il y a un risque que ces sanctions, pour une fois, aient un impact sur la population, puisqu'on a des sanctions économiques, c'est-à-dire qui visent des exportations nord-coréennes, qui étaient une source de devises pour des entreprises, mais aussi quelques employés nord-coréens. Donc, il y a une possibilité qu'un plus faible que ces plus faibles exportations aient une conséquence notamment sur l'industrie de la pêche en Corée du Nord, également l'industrie minière. Et comme l'a rappelé très bien plusieurs ambassadeurs au sein du Conseil de sécurité, il y a un risque que la population souffre en partie de ces sanctions, ce qui n'était pas forcément le cas il y a 10 ans, lorsque les sanctions visaient uniquement les scientifiques du programme nucléaire et balistique, ou encore les entreprises et surtout les banques ou les systèmes financiers qui finançaient directement ce programme.
Quand Pékin invite Pyongyang à prendre une décision bonne et intelligente, qu'est-ce que ça peut être ?
Alors, la Chine continue de rester sur la ligne de la communauté internationale, c'est-à-dire d'appeler son voisin et son allié à se dénucléariser. Cependant, il faut rappeler que Pékin a comme priorité la stabilité de la péninsule coréenne et non pas sa dénucléarisation. Puisque pour Pékin, il est plus important d'avoir une péninsule nucléarisée mais stable qu'une péninsule dénucléarisée mais instable. D'où la volonté de la Chine, notamment, d'éviter à tout prix un scénario catastrophe qui serait celui de frappes préventives militaires américaines sur la Corée du Nord pour désarmer de force ce pays.
On a le sentiment que tout se joue entre les États-Unis, la Chine et la Corée du Nord. Est-ce qu'il y a d'autres pays qui pourraient faire entendre leur voix dans ce débat ?
Aujourd'hui, clairement, les deux pays les plus importants dans le dossier nord-coréen sont la Chine et les États-Unis. La Corée du Sud, notamment du président Moon Jae-in, qui est arrivé au pouvoir au mai il y a quelques semaines, a voulu se réinsérer dans le jeu nord-coréen. Cependant, Pyongyang a décidé de mettre de côté la Corée du Sud à travers un proverbe qu'on appelle en coréen « Pongmi Pongnam », qui est de dire « faire entrer les États-Unis, mais mettre de côté la Corée du Sud ». On est donc dans la tradition diplomatique nord-coréenne. Le Japon et la Russie ont également un rôle, mais un rôle secondaire par rapport à la Chine et les États-Unis.
Antoine Bondaz est co-auteur de « Corée du Nord, plongée dans un état totalitaire », un ouvrage paru aux éditions du Chêne. Au Venezuela, les autorités affirment avoir étouffé dans l'œuf ce qu'ils appellent une attaque terroriste contre une base de l'armée. Des tirs d'armes à feu ont été entendus ce matin dans la base de Valencia. Le régime de Nicolas Maduro a très vite dit avoir repris le contrôle de la situation. 7 personnes ont été arrêtées. Parmi elles figure un homme qui a tourné une vidéo dans laquelle il se présente comme un officier de l'armée et se déclare en légitime rébellion contre, dit-il, la tyrannie assassine de Nicolas Maduro. En France, décès aujourd'hui de Nicole Bricq, sénatrice La République En Marche de Seine-et-Marne. Elle avait été l'une des ministres de François Hollande à l'écologie tout d'abord en 2012, puis ensuite au commerce extérieur entre 2012 et 2014. Elle avait ensuite été l'une des premières parlementaires socialistes à rejoindre En Marche, le mouvement fondé par Emmanuel Macron. Âgée de 70 ans, elle est décédée ce matin à l'hôpital de Poitiers des suites d'une chute accidentelle dans un escalier. La France insoumise prépare sa rentrée. Tout le mois d'août, le mouvement de Jean-Luc Mélenchon va sillonner les routes du pays pour remotiver les troupes en prévision des manifestations du mois de septembre contre la réforme du Code du travail. La caravane insoumise, c'est son nom, a fait aujourd'hui sa première halte à Mantes-la-Jolie dans les Yvelines. Sur la place du marché du Val-Fouré, les militants ont tenté de toucher un maximum de monde. Un reportage de David Ravier.
Bonjour monsieur. Petite tract de la France insoumise.
Tract à la main, les militants tentent de convaincre les habitants du quartier. Si la plupart des réactions sont sympathiques, d'autres sont parfois plus virulentes.
Cet individu Mélenchon, c'est qu'un petit arriviste et qui se planque derrière un tas d'imbéciles.
Qu'à cela ne tienne, leur action a le mérite de susciter le débat, ce qui est l'intérêt principal de cette démarche pour Guy, militant de la France Insoumise.
C'est un moment d'échange, un moment d'information. Même si on n'est pas d'accord, on échange à peu près honnêtement entre citoyens. C'est quelque chose qui manque beaucoup et qui intéresse les gens.
Ici, pas de personnalité politique de premier plan, juste des militants qui veulent rappeler que le mouvement existe toujours et que la mobilisation doit être plus solide que jamais. Audrey Allier, coordinatrice du groupe des Mantoises Insoumis.
On va essayer de leur prouver qu'au mois de septembre, il va y avoir du changement dans leur quotidien, à travers le code du travail, à travers les retraites. Et ça, c'est concret, ça va parler aux gens, et je pense que c'est ça qui va les réveiller.
Mantes-la-Jolie n'a pas été choisie par hasard, c'est là que Jean-Luc Mélenchon a réuni 34% des voix à la dernière présidentielle. Tout ça grâce à un discours et un programme majoritairement axé vers les classes populaires et ouvrières, soit une frange importante des habitants de la ville.
Politiquement, personnellement, j'en ai un peu rien à faire.
Tous n'accrochent pas à des démarches comme Mohamed.
Qu'ils viennent chercher ces électeurs un peu populaires dans sa manière populiste de faire de la politique. L'un rejoint l'autre, quoi. C'est juste logique, en fait. Personnellement, de mon point de vue, venir exploiter un petit peu cette misère sociale, cet énervement quelque part. C'est un opportuniste, c'est exactement le terme.
Si dans l'ensemble, les insoumis ont été bien accueillis par les habitants, pas sûr pour autant que les Mantois se déplacent en nombre pour grossir les rangs des manifestants les 12 et 23 septembre prochains.
Et demain, la caravane insoumise sera dans la ville de Rouen. La section antiterroriste du parquet de Paris saisie de l'enquête sur l'homme qui a été interpellé hier soir près de la Tour Eiffel. Rappelons les faits précis, il s'agit donc d'un Mauritanien de 19 ans qui a forcé l'un des contrôles de sécurité de la Tour Eiffel. Il a sorti un couteau en criant « Allah Akbar ». Il a été immédiatement arrêté. Il a affirmé en garde à vue qu'il voulait commettre un attentat contre un militaire et qu'il était en lien avec Daesh. Dans un premier temps, la piste terroriste pourtant avait été écartée. L'homme était hospitalisé dans un service psychiatrique depuis plusieurs mois. Il était hier en permission de sortie. Dès la rentrée prochaine, les étudiants en médecine vont être initiés à la médecine militaire en cas d'attentat. Ce sera bien sûr le cas dans les universités de Strasbourg et de Haute-Alsace. Le but, c'est de préparer les étudiants à gérer des blessures de guerre. Cette mesure s'inscrit dans l'état d'urgence pour que la future génération de médecins puisse vraiment faire face au terrorisme. Écoutons les précisions de Maxime Nauche.
Pour l'instant, il n'y a que les pompiers, les urgentistes et les secouristes qui savent gérer une situation pareille. Philippe Breton est secouriste alsacien et cadre national opérationnel de la Croix-Rouge. Il était à Nice le 14 juillet 2016.
Vous imaginez une scène d'attentat où il y a pratiquement 600 personnes qui sont au sol et qui sont atteintes. Il n'y a pas 600 médecins, il n'y a pas 600 secouristes qui sont là. On est dans ce qu'on appelle des situations à multiples victimes, qui nécessite une formation particulière. Je pense que c'est aussi ça que les jeunes médecins vont apprendre.
À Strasbourg, les étudiants voient ce nouvel enseignement d'un bon œil. Capucine passe en deuxième année.
Moi, je pense que c'est nécessaire au vu du monde actuel. Je ne sais pas du tout comment ça s'est passé pour les hôpitaux à Nice, mais c'est vrai que vu les armes qui ont été utilisées lors des derniers attentats, je pense que non, on n'est pas prêt à ça. Ouais.
En attendant, Capucine a déjà reçu certaines formations pendant des stages à l'hôpital.
On m'a dit que voilà, quand il fallait faire de la place, ils arrivaient toujours à amener dans d'autres services des patients qui avaient un peu moins besoin de soins si importants. Les médecins ne sont pas encore préparés, mais tout doucement, on est obligé de s'y préparer. Ouais.
Et même les étudiants en pharmacie et en dentaire recevront ce nouveau cours.
On l'apprend aujourd'hui, 10 migrants ont été retrouvés sains et saufs hier matin dans le département des Landes, sur l'aire de Sognac et Muret, sur l'A63. Ces ressortissants irakiens et iraniens, issus de deux familles différentes, avaient embarqué à bord d'un camion frigorifique. Parmi eux, un homme de 41 ans, deux femmes d'une trentaine d'années, deux ados d'environ 16 ans et trois enfants âgés de 6 à 10 ans. C'est le chauffeur qui s'est rendu compte qu'il les transportait à son insu. Romain Vezec.
Et c'est d'ailleurs lui qui a prévenu les gendarmes. Il est alors 8h du matin, le chauffeur espagnol fait sa pause réglementaire sur l'aire de Sognac et Muret quand il entend des cris et des coups sur la paroi de son camion. À l'intérieur, il y découvre ces 10 personnes avec lesquelles il a passé la frontière sans le savoir. Toutes sont immédiatement prises en charge par les pompiers qui s'assurent que le voyage dans le camion frigorifique n'a pas altéré leur santé. Ils leur prodiguent eau et nourriture avant de les confier aux gendarmes. Une fois leurs identités contrôlées et l'assurance qu'ils n'ont jamais commis de délit en France, tous les 10 ont déclaré vouloir acheter des billets de train pour continuer leur périple. Le chauffeur a été entendu par les gendarmes pour être mis hors de cause et a pu lui aussi poursuivre sa route vers la Grande-Bretagne.
Télévision, ce soir à 20h, la chaîne anglaise Channel 4 diffuse un documentaire qui fait déjà polémique, le titre Diana in her own words. Il s'agit, vous l'avez compris, d'un film sur Lady Di, à l'approche du 20e anniversaire de son décès. Ce documentaire contient des enregistrements où l'on entend la princesse partager des moments très intimes de sa vie, ce qui dérange ses proches. À Londres, les explications de Marina Daras.
Une partie de ces images a déjà été diffusée en 2004 sur la chaîne américaine NBC, mais elles paraîtront pour la toute première fois outre-Manche. Sur ces cassettes, on entend la princesse confier des moments très personnels de sa vie. Elle s'adresse alors à son coach, Peter Sutherland, qui a été embauché en 92 en tant qu'entraîneur de la voix pour l'aider à s'exprimer en public. Si le documentaire dérange autant, c'est qu'il revient sur des moments très privés de la vie de Diana. Elle se confie sur l'échec de son mariage avec le prince Charles, qu'elle dit n'avoir rencontré que 13 fois avant de l'épouser et parle de leur relation sexuelle, loin d'être satisfaisante à son goût. La princesse de Galles revient également sur sa liaison avec son garde du corps, Barry Manecki, et confie avoir voulu s'enfuir avec lui plus d'une fois. Des confidences assez embarrassantes pour le prince Charles et pour le reste de la famille royale. Les proches de Diana font donc tout pour interdire la diffusion de ce documentaire ce soir, notamment son frère, le comte Spencer, qui se bat depuis plusieurs années pour récupérer ses enregistrements. Beaucoup de Britanniques comprennent l'argument avancé par les proches de la princesse princesse qui voudrait que ces cassettes réalisées dans la sphère privée restent justement privées, mais beaucoup pensent que de l'eau est passée sous les ponts depuis la mort de Diana et que ces cassettes ont désormais un intérêt historique.
Quelques averses sur l'Aquitaine à prévoir demain, sinon c'est du beau temps partout. Demain matin, les températures partiront de 17 en Normandie, elles monteront jusqu'à 30 dans le Var. Édition préparée avec Brice Garcia, réalisée à la technique par Pierrick Monsigny.